voici.
Rebonjour.
Rebonjour. Christian, alors nous enregistrons cette conversation dans la foulée, après une petite collation qui nous a permis d'intervertir nos chaises.
Oui.
Mais nous n'avons pas fini avec le récit de votre vie que nous avons laissé en suspens tout à l'heure, quand vous comprenez que vos opinions, que vous ne cachez pas d'ailleurs, non pas de droite ou de gauche, mais c'est pire, anti-impérial,
oui,
dénonçant
de méfiance,
la hégémonie culturelle états-unienne,
méfiance.
Ça vous coûte cher.
D'autant plus que je connais bien ce monde-là de l'intérieur. J'ai traduit une trentaine de livres littérature américaine d'aujourd'hui, donc je les connais bien, j'ai vécu là-bas, j'avais un vieil ami hongrois qui était un émigré hongrois à New York où je l'avais connu. Et c'est une histoire assez jolie d'ailleurs, qui est dans le roman de Budapest dont je parlais tout à l'heure. Ce type, lors de mes voyages mondains à New York, dans le milieu de l'art, je tombe sur ce type, il s'appelait Tibor Dénagy, et qui était, parce que bizarrement, tous les grands marchands d'art à New York sont hongrois. Donc c'est une mafia locale, et donc le type, on dîne ensemble, on se plaît bien, et il me dit, je viendrai vous voir à Paris, il vient me voir à Paris, et du coup je lui fais un coup fumant. Je vais m'installer à Budapest, et de là, je lui ai écrit à New York en disant « Vous m'avez dit que vous ne vouliez jamais plus voir ce pays de con, mais il faut que j'y suis installé, et le cas échéant, je vous prête la moitié de l'appartement. » Alors au début, jamais, jamais. Après, il a dit « Vu les questions qu'il y a dans l'appartement, j'irai à l'hôtel intercontinental à la rigueur. » Donc déjà, il avait un peu faibli. Et après, malheureusement, sa vieille sœur est morte, qui était restée toujours là-bas. Et il a dû vider l'appartement. Et là, il a eu besoin de moi pour faire le nécessaire. Donc j'ai vidé l'appartement d'une vieille dame à Budapest, avec son concours, lui en gueulant tous les gens, tous les banquiers qu'il appelait communistes. Et donc c'était vraiment une expérience rigolote que j'ai racontée, assez émouvante, que j'ai racontée dans un livre. Je me souviens, devant tout un quartier de Budapest, l'équivalent de Montmartre, qui appartenait à son père, il disait « All that was belonging to my father. This is becoming quite emotional. » C'est-à-dire, ça devient très émouvant, cette histoire. Donc, vous voyez, il avait comme ça cet aspect très sentimental des vieux Hongrois.
On avait croisé des personnages.
Ah oui, oui, non, mais c'est... En fait, je les aime. Moi, j'aime les personnages.
Vous aimez les personnages.
Voilà.
Ça, c'est l'écrivain qui parle.
Non, mais c'est surtout l'auteur de Campagnol. C'est pas pour rien que je fais une galerie de personnages. J'aime beaucoup les gens en général. Et toutes leurs particularités m'émeuvent et me retiennent, en tout cas.
Alors, le personnage de Campagnol a fini par créer un autre personnage qui s'appelle Léon.
Oui, qui s'appelle Léon.
Et qui est Léon?
Alors, Léon est un écho lointain d'un prêtre que je connaissais à Rome, qui était un vieux prêtre français.
C'était Léon avant Léon de
Rome. Oui, oui, oui.
Et encore une préscience.
Alors, je fréquentais Rome depuis longtemps, vous avez été pratiquement témoin de ça, et donc les marches du Vatican, et dans les marches du Vatican, il y avait ces couvents, où il y avait des gens assez intelligents, vraiment parlant plusieurs langues, et là, j'ai croisé par hasard un prêtre français, assez octogénaire sur les bords, mais avec un français remarquable, forcément, qui était guérisseur, et à qui on avait demandé d'aller exercer ses talents en dehors du couvent, parce que ça faisait des ordres. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour créer ce personnage de Léon. Alors ce type-là, ce vieux prêtre, avait un côté Padre Pio. Il voyait les morts quand il était petit, il voyait des gens de la maison que ses parents lui ont désigné ensuite comme n'existant pas. Mais si, ils existent, parce que de temps en temps, ils entrent dans ma chambre. Et après enquête, on s'est aperçu que c'était d'anciens habitants de la maison. Et donc le type avait quand même un sixième sens tout à fait curieux. Et donc lui m'a raconté plein de choses affreuses sur la France. Et à l'époque, il disait pique-pente de Sarkozy, puisque c'était mon président à l'époque, puisque j'étais en poste là-bas. Et c'est assez vérifié quand même que c'était un bandit.
Vous savez le mot fameux de Sarkozy, Macron c'est moi en mieux.
Ben oui, c'est ça.
C'est-à-dire c'est empire, Macron quoi. Empire, quoi, en traduction.
Exactement. Enfin bon, tout ça pour dire que, effectivement, j'ai une passion, pas une passion, ça, c'est pas une obsession. J'aime beaucoup une lecture, un peu comme Balzac, honnêtement. Les romanciers font ça très souvent. Une lecture un peu paranormale des choses me séduit beaucoup. Je trouve qu'il y a dans la vie tellement de coïncidences, tellement de personnages qui se correspondent.
Mais vous êtes très, très aux aguets de
choses. Oui, c'est vrai. J'adore ça, les coïncidences,
c'est le monde invisible,
les choses. Je vous donne un exemple. Il y a une fille qui était une coiffeuse qui habitait près de chez moi. Lorsque j'étais invité à Apostrophe, je l'ai invitée deux, trois fois à être dans le public derrière moi. Donc à l'époque, c'était quand même pas mal parce qu'elle était à la télé, elle hochait la tête, bon, et donc au salon de coiffure, on commentait, après elle participait au cocktail.
Vous sentiez ce qu'elle vous disait?
Non, 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 mais la chose amusante, c'est que deux fois, je l'ai mise dans le public derrière moi, et donc c'était un des grands épisodes de sa vie, c'était d'avoir été sur le plateau de l'apostrophe, puis dans le cocktail d'après.
Non, je pensais qu'il y avait...
Pour en venir au paranormal,
Oui.
cette femme mort récemment. Je l'apprends par hasard, parce qu'elle n'était pas si suppléante, mais son neveu passe en disant, vous savez qu'elle est morte avant-hier. Non, je ne le savais pas. L'enterrement était le lendemain. Je vais à l'enterrement. Et la nuit même, d'après l'enterrement, je reçois un email d'un anonyme complet en me disant, j'ai pensé qu'il y avait une photo qui pourrait vous plaire. Il m'envoie une photo d'apostrophe où je suis tout pimpant, tout
Avec
jeune.
elle derrière.
Elle derrière. Fascinant quand même. Ça, c'est tout à fait le genre de truc auquel je suis exposé et
Vous connaissez le
sensible.
credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel
Ciel de la
et de
terre,
la terre, de
oui.
l'univers
Et
visible
invisible.
et
Et
invisible.
invisible.
Vous êtes catholique?
Je suis catholique, je suis plutôt chrétien que catholique d'ailleurs, mais parce que, oui, parce que j'ai pas une passion pour le vaticanisme covidien. Vous voyez ce que je veux dire?
Covidien?
Oui, ils se sont discrédités à mes yeux, à mon goût, pendant
Écoutez,
les années
là
Covid.
c'est trop.
Ça a été odieux.
Là,
Dans
c'est trop.
les villages,
Vous qui êtes
non, ces
odieux.
prêtres qui mettaient des
Ah, mais
panneaux.
je ne parle pas de ça.
Ouais.
Regardez, pendant l'affaire Covid,
Oui.
qui a résisté des catholiques? Dans les messes. Ah
Pas
oui, et puis
tellement.
ils étaient. Ah, ben si, et
Pas
puis ils
tellement.
étaient.
Les seuls que j'ai vus
Ah, ben
résister,
ça, c'est
c'était.
pas vrai.
Moi, les seuls que
Moi,
j'ai vus
j'ai
vraiment
vu des messes
résister, c'est.
à Saint-Nicolas-du-Chardonnier.
Non,
En 21,
Oui.
il y avait. On compte. Il y avait
Oui, mais à
500
Saint-Nicolas.
personnes.
Et Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est pas le catholicisme
Et c'est pas catholique,
français. Non, mais
peut-être?
c'est pas le catholicisme
Vous
français, vous
plaisantez?
plaisantez.
Non,
Moi, je
non,
vous
non,
parle
non.
des curés de.
Regardez le seul
Non.
parti
Je vous parle
qui
des
a
curés de salles
résisté, c'est le
polyvalentes. Des
Parti
curés de salles.
chrétien-démocrate
Les curés de salles.
qui ont obligé Macron à réouvrir les églises.
Oui, bon.
Les chrétiens, les catholiques ont été
Ils étaient
beaucoup
trois.
plus.
Ils étaient
Non,
trois.
non. Et regardez tous ceux qui ont résisté, à commencer par
Écoutez, moi, ce que j'ai
Madame
vu,
Orion
ce que
Côte,
j'ai
était
vu,
catholique.
ce que j'ai
Les
vu, c'est
catholiques se sont très bien
sur les bancs
comportés pendant
d'église,
l'affaire
des
du
panneaux
Covid.
interdiction de stationner. Ça, j'en ai
Oui,
vu.
mais on vous l'avait vu partout. Alors,
Bah,
vous
déjà,
l'avez
c'est
vu dans le
honteux. C'est
supermarché
déjà
aussi, mais
honteux. C'est
beaucoup
honteux.
moins.
C'est honteux.
Oh.
C'est honteux. Puis
Ah, vous êtes partisan
le
d'une
pape,
école?
le pape lui-même était un cinglé. Enfin, le François était un cinglé.
Non, mais le pape n'absorbe pas toute la chrétienté, quand
Non,
même,
mais
d'abord,
enfin, en
pour
tout cas,
commencer.
je veux dire, il est allé tellement loin dans il a chanté expressément, explicitement, les louanges de Davos. Dans
Bah,
une sorte
évidemment.
d'encyclique en disant qu'il faisait un travail formidable pour l'humanité. Mais
C'est
on rêve. Mais même.
Davos qui l'a fait
Oui,
élire,
mais
alors c'est normal.
même le pape actuel, l'américain, là, est un peu cinglé aussi. Il vient de prendre des positions sur l'Ukraine qu'il n'avait pas à prendre.
Allons, allons,
Mais
allons.
non.
Un peu de respect pour
Non,
notre
mais
Mère
c'est une
l'Église, quand
honte.
même.
Justement, c'est eux qui
Vous
descendent.
savez,
C'est eux qui descendent dans l'arène politique alors qu'ils ne nous disent pas qu'on fait de la politique avec eux.
que l'Église et les chrétiens sont le principal signe de résistance de ce monde
Non,
ultramatérialiste.
j'en suis bien convaincu puisque
Alors,
j'en parle dans le petit
vous
livre.
le dites vous-même.
Ouais, j'en parle dans le petit livre. L'esprit chrétien est évidemment l'un des seuls points de résistance.
Il est
Attention,
rebelle. Il est...
l'esprit chrétien, c'est le nôtre. C'est pas celui des prêtres bénis oui.
Enfin, la catholicité est d'abord
Non, mais.
faite des chrétiens.
Oui, ben
Enfin,
justement.
faite simplement
Ouais.
de l'appareil romain.
Ah, oui, alors
Exagéré.
l'appareil romain a beaucoup donné dans le genre béni oui-oui de chez Pfizer.
Oui, mais ne fragilisez pas la chrétienté au moment où elle est le seul signe de résistance.
Non,
Cause
non,
commune avec
en
Pfizer.
fait, je raconte dans ce petit livre que la chrétienté va finir par se fédérer avec le confucianisme.
Et oui, c'est une occasion de renouveau d'ailleurs,
Oui, je pense
à
que
la faveur du
c'est
basculement du monde.
vraiment.
Oui, c'est vrai.
En gros, on est arrivé à une impasse, c'est ma thèse. D'ailleurs, c'est la thèse de toute mon existence aussi, même dans mes romans, hein, parce que j'écris quand même des romans personnels. Cette nasse dans laquelle le vieux monde, enfin plus exactement l'humanité, l'humanisme des gens, est prise désormais avec cette modernité qui ignore le fond des gens, qui rend les gens interchangeables, qui rend les sexes interchangeables aussi.
Alors, ça, c'est un des éléments de votre dernier
Ouais.
livre, y compris de celui que vous venez de faire paraître, à l'endroit dans lequel vous parlez, alors, non pas simplement de Davos, mais j'ai beaucoup aimé cette formule du système décisionnaire mondial.
Oui.
C'est qui, ça?
Ben,
Alors, c'est les oligarchies liées entre elles.
c'est ce qu'on appelle le paralysme de masse, c'est-à-dire que c'est la machine qui décide. En fait, vous secouez le panier et il y a une espèce d'activité neuronale qui subsiste et cette activité neuronale décide pour le bien du panier tout entier, qui n'est pas le bien de chacun des éléments du panier. C'est le panier lui-même en tant que conteneur, contenant.
C'est un gouvernement qui est fait d'oligarques,
Et
mais
c'est
ils
un.
communiquent
Mais
entre
non,
eux.
en fait, c'est un réseau neuronal. Un réseau neuronal a pour objet de se défendre contre toute atteinte à son intégrité. Et donc, ce réseau neuronal, en fait, tue les foyers d'infection, fonctionne comme une espèce de réseau d'anticorps permanent. On le voit très bien dans les médias français. Hein. Rien n'est garanti chez nous sur le plan du premier amendement, etc. Donc, en gros, le réseau neuronal fonctionne à plein. Là, je suis victime de ça, dans les conditions que nous venons de décrire, dans le premier numéro de notre entretien. Je suis victime de ça à un niveau très faible par rapport, évidemment, à Éric de Nessay et à Olivier Marleix. Ce que je veux dire, c'est que les anticorps leur sont tombés dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Tandis que dans mon cas, ça s'est simplement soldé par l'éviction des cercles de François-Olivier Gisbert, de tous ces gens qui faisaient la pluie et le beau temps. Télévision. Je vous rappelle que François-Olivier Gisbert avait 3 ou 4 émissions par semaine, différentes, je veux dire.
Après avoir dirigé le Nouvel Observateur.
Le Nouvel Observateur, puis le Figaro. Où j'ai été sous ses ordres. Et donc, il mettait tous mes papiers de côté. Et plus. Et à la fin, il mettait mes papiers de côté pour mettre ceux de Zemmour à la place. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un ami des Américains plus assidu que moi.
Autre préscience. Ouais. Mon Dieu. Alors, vous n'y allez pas de main morte quand même. Notamment dans ce petit livre, sur les puissances du jour. Bien entendu, les États-Unis, qui sont dans votre collimateur, avant que ce soit le contraire, c'est-à-dire que vous êtes dans leur collimateur, pour votre malheur. Enfin, je dis pour votre malheur, mais au fond,
non, mais
vous vivez très
agréablement. Voilà, le truc, attention, il peut y avoir quand même de très lourdes conséquences. Moi, j'ai pas subi grand-chose parce que peut-être j'ai pas un discours vraiment polémique. J'ai un discours plutôt d'intellectuel qui regarde les choses d'en haut. Mais si je me mettais à aller dans l'arène, il est probable qu'on me trouverait quelque chose. On peut pas trouver grand-chose sur le plan moral. Je veux dire, j'ai jamais trafiqué d'enfants, j'ai jamais partousé après 23h30 avec tout Paris. Donc c'est très difficile de trouver quelque chose qui m'accable. Sur le plan financier, j'ai jamais trafiqué d'un an plus quoi que ce soit. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Le seul moyen, c'est le coup de fusil. Voilà, le coup de fusil. C'est tout.
Vous posez la question, vous n'avez rien de suicidaire. Vous vivez donc agréablement, et d'autant plus agréablement que vous maîtrisez très bien les instruments de communication et que vous avez, à la faveur de, au moins, voilà une bonne chose de ce qu'on appelle un peu vite le progrès, à la faveur de cet instrument merveilleux qui est YouTube, vous avez créé un personnage. Comment ça s'est passé, Campagnol?
Ça s'est passé, je rends grâce, Martial. Martial Bill de TVL, à qui je propose la chose quand même. C'est moi qui lui ai proposé chez Ménard. Je me souviens très bien, on était chez Ménard. On se demandait ce qu'on foutait là, parce que Ménard. Ménard avait organisé.
2017 ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, il avait organisé un jamboré des gens.
C'était mal foutu.
Un jamboré des gens de droite. On avait trouvé dans la corbeille à l'hôtel, on avait trouvé des papiers d'adhésion à un nouveau parti politique.
À son parti politique, oui.
Bon, enfin bref, après le premier quart d'heure de rigolade, on a commencé à parler entre nous et j'ai dit à Martial, j'aimerais bien faire ça parce que je l'ai déjà fait. J'avais fait un livre chez Flammarion qui s'appelait Jean Campagnol. De Campagnol. Est-ce que je peux faire une chronique?
Pourquoi Campagnol d'ailleurs? Pardon,
parce que il y a Campagne dedans et puis il y a la terminaison Hall qui est comme Campagnol. En Languedoc, la terminaison Hall est assez fréquente. Donc, Martial me dit, écoute, on se voyait toujours d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous voulez, moi, sur le plan audiovisuel, hein. Venez, donc je viens dans les studios.
On est en 2017.
Là, voilà, très honnêtement, il était un peu estomaqué qu'il n'y ait rien eu à reprendre et que le ton soit exactement ce qui convenait. Il m'a dit, bon, on commence tout de suite si vous voulez. Bon, et effectivement, là, on a fait une année ou deux, après le journal télévisé de TVL, et puis après, ça s'est un peu distendu, mais pas de mon fait. Hein. Il y a eu d'autres priorités.
Vous avez eu des vues énormes.
Oui. Alors le truc, c'est que j'ai été quand même un petit peu puni par YouTube, puisque j'ai été censuré plusieurs fois après 170 000 visionnages. Et au bout de 6 mois, et je vais même vous donner un cas, le truc a été supprimé.
Nous savons bien à TVL que notre succès nous met en danger.
Oui, mais là, en l'occurrence, on voit bien comment fonctionne le système. Dans un sujet, je disais à propos du système chinois, voilà, exactement le système qu'un jeune occidental ne peut pas souhaiter. C'est contraire à nos usages, à notre culture, à notre religion. Ce défaut d'égard à l'égard de l'individu, c'est ce dont nous ne voulons pas. Et j'étais tellement explicite au sujet de la résistance au système chinois que je suis sûr qu'il y a eu des pressions, que c'est remonté tout doucement, un petit coup de fil, etc. Le directeur de la communication de l'Élysée a probablement téléphoné au directeur de la communication de YouTube en disant... Il y a 2-3 trucs qui nous embêtent.
Alors vous êtes sûr qu'il y a cette
liaison-là ?
Ah ouais,
je suis sûr qu'il y a une boucle
à tous les coups. C'est important ce que vous dites
là. À tous les coups. Il y a un autre exemple. Il y a un autre exemple au Figaro.
Donnez-moi un peu de thé, il faut que je me remette de cette révélation.
Il y a un autre exemple au Figaro. C'est...
Vous servez-vous au passage ?
Non, merci, c'est fait. Oui, il y a un autre exemple au Figaro. C'est, j'ai ricané de manière légitime, je le précise, à propos du français de François Hollande, en reprenant un discours intégralement comme si j'étais prof. Et avec des remarques, les remarques vicelardes du prof qui veut s'amuser aux dépens de l'élève. Et donc, je ne vous fais pas le détail, mais c'était accablant. En plus, ils ont corrigé le texte après, mais j'avais l'original, oui, qui était paru sur le site de l'Élysée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été remercié par le Figaro en 2015, juste après ça. J'ai pu livrer une ligne depuis.
Ah, donc vous êtes sûr.
Et je peux même vous donner un nom, je ne pense pas me tromper beaucoup, je pense que c'est Gaspard Kanzer, qui était directeur de la cellule de communication de l'Élysée à l'époque, et qui a obtenu ma peau. J'ai pas plus eu...
Je vois très bien ce petit bonhomme.
Voilà, effrayant. Un hirsute.
Qui était proche de...
Qui ressemble à un méchant personnage de manga.
Avant de l'être... Bon, écoutez, tant mieux, on va avoir des ennuis avec lui.
Non, pas du tout, on a le droit de dire qu'il ressemble à un méchant personnage de manga, quoi.
On n'a plus le droit de tout, vous n'êtes pas au courant. Enfin, vous les prenez en tous les cas. Sur le système décisionnaire mondial, ce qu'on appelle le gouvernement mondial, votre théorie est un peu plus subtile, mais on va finir par y voir clair dans ces maîtres qui dictent tout.
Alors je pense que la Candace Owens, tout le monde dit qu'elle joue double jeu, qu'elle est dans la manche de Trump, j'en suis pas entièrement convaincu. Je pense qu'elle est, au contraire, l'étincelle qui peut provoquer le feu d'étoupe très brutal, qui va révéler tout. Déjà, dans quelques jours, le 19 décembre, nous devrions être fixés sur pas mal de choses relatives à l'affaire Epstein.
Alors, je précise que nous enregistrons le 11, oui. Le 11 décembre.
Et que ça passera au début janvier, c'est
voilà.
ça ?
Voilà.
Le 19 décembre, normalement, nous aurons dû connaître l'essentiel de l'affaire Epstein, ce qui a été épuré de tout l'aspect qui concerne Trump, parce qu'apparemment, il y en a un... Donc, je pense que c'est une négociation qu'il a dû mener avec les détenteurs du dossier. Et lui, voilà, vous balancez là-dessus, puis c'est fait.
Vous êtes de ceux qui se réjouissent beaucoup de l'arrivée de Trump il y a près d'un an à la tête des États-Unis.
Aucun Européen ne peut aimer le personnage Trump, la vulgarité de son langage, son côté. Voilà, en gros, il a un côté Hanouna, quoi. C'est terrible. Et alors ça, évidemment, on peut ne pas aimer.
Vous n'avez rien de pire.
Mais en même temps, c'est quand même le chien dans le jeu de quilles. Et on souffre principalement du jeu de quilles en ce moment.
Oui.
Donc...
C'est drôle, un de nos amis dont nous n'avons pas parlé, mais il faut en parler aussi, puisqu'il nous a plusieurs fois réunis, qui est Renaud Camus.
Oui.
Quand Trump a pointé le bout du nez à la faveur de la primaire en 2016, je crois, ou 2016, aux États-Unis, alors qu'il est moins opposé à l'hégémone que nous ne le sommes, notre cher Renaud, a tout de suite vu à travers Trump le comble de la vulgarité.
C'est vrai.
En esthète, il avait tout de suite.
C'est vrai, sauf que Renaud n'a pas pris soin, moi, par divertissement, donc c'était divertissant. J'ai beaucoup regardé sur mon grand écran au fin fond de la province, parce que maintenant, quand on a un bon câble, ça marche très bien, une bonne fibre, ça marche très bien. Je regardais tous les rallies de toutes les campagnes en 2017 d'abord, en 20.
Les rallies,
c'est-à-dire les espèces de meetings, enfin de rendez-vous informels qu'ils donnaient dans les stades. Où il était là avec plein de drapeaux partout. Il y avait une espèce de ferveur incroyable. Et là, le personnage, c'est un personnage de café-théâtre. Il était très bon dans le genre, par exemple, le fils de Biden. On se demande où est Hunter. Where is Hunter? Et toute la foule hurlait derrière lui. Donc il y avait un côté très...
Il faut dire qu'Hunter Biden est voilà, le fils de Joe Biden.
Il y avait un côté très amusant dans cette façon de gérer les foules, avec un côté café-théâtre, un côté télé, quoi. Et moi, j'avoue que je regardais ça par plaisir. Et puis, je voyais que ça prenait en plus très bien dans l'opinion. Alors, le problème, c'est que ça risque de prendre aussi dans l'opinion française. Parce que ce genre de comportement électoral peut très très bien marcher en France. Hein.
Mais ça prend. La preuve, c'est qu'une bonne partie de la droite française est devenue une droite américaine.
Un peu, oui, c'est vrai. Oui, parce que finalement, Bardella, c'est un peu Trudeau, quoi.
Ben oui. Voilà.
Oui, oui.
Hélas.
Oui, oui.
Alors, par Hunter Biden, c'est peut-être l'occasion de, avant d'en venir à la thèse principale de ce livre, à l'endroit, pourquoi à l'endroit, on va voir, on commence à le deviner, vous avez des mots incroyablement durs pour ce qui est devenu l'Ukraine, nouvel État américain dont vous dites qu'il est externalisé, oui. Et que tout ce qui n'est pas permis aux États-Unis,
absolument.
Les États-Unis se le sont permis en matière d'expérimentation génétique.
Voilà. C'est la méthode américaine. Ça tombe tellement sous
de
le coup
trafic
de
d'organes
d'enfants,
c'est ça.
D'état civil d'enfants.
À partir du moment où ils ont mis leurs Zelensky.
Trafic de cellules aussi.
À la tête de.
Alors, trafic de cellules.
On peut dire que l'Ukraine est devenue, après Maïdan, un État américain.
Absolument. Bon.
Il y a même des ministres américains à qui on a donné la nationalité ukrainienne au moment où ils entraient au gouvernement.
Ouais,
c'était très net. Et ce fameux Zelensky, vous nous en apprenez pas mal, moi je ne savais pas que Zelensky avait été fabriqué de longue date pour devenir président
ukrainien. Alors là, lui c'est un Hanouna.
Et oui,
puisque il
sort c'est l'ère des Hanouna.
Un parcours médiatique habillé de cuir, dansant le jerk,
une émission de télévision dont il est le héros, et
oui.
Au terme de laquelle il devient président
absolument,
d'Ukraine, avant de l'être
absolument.
Lui-même. Fabrication hollywoodienne typique.
C'est véritablement un cas d'école. C'est Truman Show. Enfin, vous avez vu ce film Truman Show. Truman Show ressemble plus à ce que nous vivons, nous.
Oui, c'est-à-dire
qu'en fait, la réalité telle qu'elle nous est offerte depuis une dizaine d'années...
a déjà été... scénarisé.
Voilà, et donc on se dit, mais on a déjà vu ça. Par exemple, quand il commence à nous reparler sans arrêt des distanciations sociales et que dans tous les pays, on emploie les mêmes mots pour désigner les mêmes choses. Il y a bien eu une sorte d'entente pas tacite, explicite entre les États. À une certaine époque, c'était frappant. Là, par exemple, le dernier aspect Truman Show de la situation, c'est quand ils se sont mis à tous les journaux les plus officiels, genre le Parisien Libéré, se sont mis à nous dire qu'on risquait la crise cardiaque si on se baissait trop vite pour lasser ses chaussures. Oui, il y avait plein de causes de crise cardiaque possible qui nous ont été assénées dans les mêmes 6 mois. Pourquoi ? Parce que ça permettait de cacher plus aisément, les conséquences cardiaques du vaccin.
Eh oui, c'est parce que vous vous penchez pour lasser vos chaussures. C'est
pas le vaccin. Absolument, c'est pas le vaccin qui vous donne de la myocardite. C'est alors après, en désespoir de
cause. Vous savez, ça s'est appelé la fabrique de l'opinion.
Oui.
La fabrique du consentement.
Oui.
Ce sont des thèses états-uniennes des années 1930-1935.
Absolument.
Ils n'ont fait que mettre en application une théorie vieille d'un presque.
Absolument. Mais attention, c'est une chose qui était déjà en pratique sous Beria et sous Staline. Donc,
ah, oui.
Et donc c'est le grand défaut de tous les empires, c'est cette dérive vers le contrôle des êtres humains. Et là donc on en arrive à éventuellement la thèse rampante de mon livre, qui est une thèse paranormale proprement dite. Nous sommes l'objet de la bienveillance de la Providence, quoi qu'ils veuillent tous ces gens. Ils vont chuter parce que la Providence leur en veut. C'est déjà écrit, quand vous regardez le front...
Expliquez-nous.
Oui, quand vous regardez le front de Macron, vous voyez très bien qu'il va lui arriver des problèmes. Depuis le début, il a cette espèce de suffisance du mec qui dit « même pas peur ». En fait, il est terrifié, parce qu'il sait qu'il s'est avancé en terrain miné. Et ça va exploser, forcément.
On dit ça, par exemple, de Zelensky. Je reviens à Zelensky, auquel vous réservez des pages terribles. Il est très intéressant, ce petit livre, parce que vous y allez fort, quoi. On apprend d'ailleurs que Zelensky vient d'une famille juive qui vit en grande partie à Tel Aviv.
Ah oui, c'est assez intéressant. Il a fait immigrer ses parents là-bas.
Mais même au début du siècle, avant même de prendre le pouvoir.
Enfin, bon, déjà, je trouve ça très étrange quand même, cette espèce de double appartenance. En plus, il protège des gens qui sont très très anti-juifs. Comme ce bataillon Azov,
nazi,
etc.
Oui.
Voilà, ces bataillons Azov, c'est pas une légende. Même s'ils sont moins nombreux qu'on ne le dit, c'est quand même un fer brûlant dans la nation ukrainienne. Et ben, bizarrement, il touche le fer brûlant à main nue, ça ne dérange pas. Un peu comme Choros, d'ailleurs, hein, dont la famille a fréquenté beaucoup l'occupant.
Bah, oui, pour lui, c'était l'occupant.
Ben, oui.
Sans parler du grand chef de j'oublie son nom, de Davos.
Oui, bah.
Qui était très bien.
Schwab.
Schwab. Ouais. C'est effrayant tout ça. Ça se lit très bien, tout ça.
Moi, ça se lit aussi, si on veut le lire de manière très historique,
oui.
C'est-à-dire à la fois. Je ne suis pas du tout un érudit.
Pas fantomatique, mais historique.
Voilà, je ne suis pas un érudit. Oui. Je pense qu'un érudit pourrait toujours trouver des choses qui vont à l'encontre de ce que je dis. Mais moi, je sens, comme tous les vieux de paysans, je sens la couleur de l'histoire. Et par exemple, la couleur de l'histoire en ce moment, c'est que l'Allemagne va recommencer à nous emmerder. C'est inscrit dans les gènes de la situation.
Ça s'appelle l'Europe maintenant, l'Allemagne.
Voilà, ce qui va se passer, c'est que les Américains vont dire « l'OTAN c'est fini, on s'en fout, on a nos affaires à nous ». Et les Allemands vont dire « ah là là, par ici, non, les Français bougez pas, c'est moi qui commande ». Et voilà, c'est honteux.
L'Allemagne nous empoisonne depuis le traité de l'Élysée.
Exactement. Et donc…
Autre rupture terrible qui est… La piqûre, je crois que le vaccin.
Moi, j'appelle ça la grippe américaine.
C'est un OGM, un organisme génétiquement modifié. Il s'agit même de modifier l'homme, d'abord. Et finalement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une rupture là très importante dans le regard qu'on pose sur la science? Et sur la médecine en particulier.
Aucun doute, mais déjà, on avait commencé.
On commence à ne plus regarder la science.
Déjà, c'est
très important.
Sous Staline et Hitler, c'était un peu pareil. Les médecins n'étaient quand même pas très recommandables.
Oui, ce n'était pas le serment d'Hippocrate. Mmh. Ben, ça revient. Mmh. Cette piqûre obligatoire a mis dans les esprits, quand même, dans la plupart des esprits sains, mais beaucoup plus qu'on ne le croit, l'idée que la médecine peut tuer.
Oui.
Et que ça, c'est aussi un signe de totalitarisme.
Bah oui.
En effet, la référence au médecin nazi est intéressante. Il y en a un qui n'échappe pas à vos foudres, c'est le docteur Fauci.
Oui.
Très intéressant.
Oui. Vous avez vu le personnage, moi j'ai vu ses photos.
Il y a un livre sur le docteur Fauci.
Oui, mais rien que les photos, regardez les photos de Fauci à 30, à 28, 30 ans. Vous voyez le genre de petit mec à qui on donnait des claques dans la cour de l'école. Parce qu'il a vraiment une tête de première classe, pénible, chafouin.
Vos intuitions.
Oui, c'est terrible de dire ça. Effectivement, moi j'ai une grande théorie qui est les gens de droite n'hésitent pas à catégoriser les gens physiquement. Ils disent volontiers dans la conversation « Oh, c'est un grand échalard, le type bon. !» Et en fait, on n'a plus le droit à gauche de décrire les gens physiquement, c'est fini.
Mais le physique parle pour vous.
Oui, énormément.
Qui disait à partir de 50 ans, tout homme est responsable de son visage.
C'est oui, très beau, ça, c'est vrai d'ailleurs.
Mais alors, ce Fauci en question, c'est peut-être lui qui a théorisé la Covid. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que le docteur Delfrécy, qui était à la tête du comité scientifique, etc., même le mot scientifique prend un autre sens maintenant.
Ouais.
Les études scientifiques, d'après une étude scientifique, c'est louche.
Ouais,
le mot scientifique maintenant a changé.
Ça,
c'est très important, je crois, pour l'évolution de notre civilisation. On sort du scientisme.
Mais surtout, le problème, c'est qu'il y a cette espèce de. Effectivement, ce à quoi je fais allusion plusieurs fois dans le livre, c'est le côté scientologue de notre façon de gérer les problèmes sociaux. Il y a des vérités.
Pour fabriquer le consentement, on fait appel à des études scientifiques.
Ça, et d'autre part.
Irréprochables.
Et il y a des vérités auxquelles on ne touche pas. Par exemple, vous avez bien vu que la présidente de Radio France décide de ne pas ouvrir le micro quand quelqu'un parle pour ou contre le climat. Ben si, elle ouvre quand il parle du réchauffement, mais tous les gens qui mettent en doute, on n'est pas là pour ça.
Et oui. Mais j'en reste à Fauci. Il avait pour élève, je crois même qu'il était directeur de thèse, enfin dans la même université, le fameux Delfrécy, qui était président de la comité scientifique.
Mais après, on a des emails entre eux.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même un centre pensant de l'opération. C'est une opération.
Oui. Delfrécy lui écrit, j'arrive plus à les tenir. Il le dit textuellement, oui, textuellement. Il va falloir faire vite parce que j'arrive plus à les tenir. On est donc en présence.
Faire vite sur le.
Ouais, ouais, pour contenir les mouvements d'opinion défiants, etc.
Avec l'aide des cabinets de conseil du genre.
C'est quand même terrible. Donc on a été mené en bateau.
Qui organise l'opération. Ça aussi, c'est une rupture. Et puis, il y a une grande rupture, la rupture du trans, sur laquelle vous vous étendez. Ouais, c'est très important. Ouais, c'est ça, à l'endroit.
Oui.
Il faut remettre... vous savez, le général de Gaulle disait tout le temps, au début de ses allocutions, je ne sais pas si vous avez noté ça, les choses étant ce qu'elles sont.
Oui.
Eh bien, les choses ne sont plus du tout ce qu'elles
oui,
sont.
Oui, exactement.
Voilà.
Oui, on vous explique que les petits garçons peuvent être des petites filles cachées, voilà. Ce qui est absurde, ce qui est absurde.
Le transnational, d'abord... Ouais. Mais le transsexuel, ou le trans d'une manière générale, et cette opération transmagique qui s'était déroulée...
Ça existait autrefois, le chevalier Déon, etc. Il y a même cette fille, cette femme, qui est d'ailleurs d'un assez bon niveau verbal, qui s'appelle Brazzaville, qui s'exprime assez régulièrement et qui en veut énormément, disons, à tous ceux qui prônent le transsexualisme téléphoné, c'est-à-dire le genre « si ça te chante, si tu veux, on peut te faire devenir petit garçon », elle dit « moi, je suis né réellement hermaphrodite et vous portez atteinte aux gens comme moi en jouant avec ces histoires, en disant que c'est de la pure fantaisie et qu'à 4 ans et demi, on peut décider un gosse à changer d'âme ». C'est un scandale de dire une chose pareille.
Vous savez que c'est la population qui connaît le plus fort taux de suicide.
Oui, je sais. Oui, je connais les chiffres.
Parce qu'évidemment, quand on n'est pas soi-même, on souffre.
Absolument. Et j'ai même écrit sur le sujet un petit livre assez maltraité par la presse, évidemment.
Alors, vous parlez à plusieurs reprises dans ce livre, à l'endroit, chez Jean-Cyril Godefroy. Il est récent, il a 2-3 mois, je crois, ou 4.
Oui.
Deux ou trois fois, je ne sais pas si votre plume se rend compte de ce qu'elle dit,
véhicule.
De l'harmonie naturelle.
Oui, oui.
Est-ce que la nature n'est pas le grand référent, le grand nomos que nous avons perdu de vue et qu'il faut retrouver pour remettre les choses à l'endroit?
Mais ces fameux équilibres... Un besoin, on voit très bien ça chez Proust d'ailleurs, Proust montre que par exemple en matière de fantasme sexuel, il y a toujours un pendant, le masochiste recherche le sadique, etc. Et donc ce qu'on observe dans ces comportements humains, vous l'observez également dans la nature. Vous avez le poisson pilote qui est avec son requin, ces appariements se produisent de manière tout à fait naturelle. Et le problème...
Il y a une harmonie naturelle ?
Alors, cette harmonie, c'est une...
Ça, c'est important.
Oui, mais c'est une complémentarité. Il y a un côté darwinien dans ce que je dis. C'est que tout ce qui est utile à quelqu'un est préservé. Et au bout d'un moment, l'organisme fonctionne bien parce que tout s'emboîte en quelque sorte. Et seul est cause de désordre et donc est tué celui qui est en disharmonie en quelque sorte. Alors dans les sociétés occidentales, ça a été le cas. Tous les gens qui sont allés trop loin dans le genre Antonin Artaud l'ont payé d'une éviction quelconque.
De la folie.
D'une folie en plus. D'ailleurs, c'est valable également dans les corps. Moi, j'ai toujours en fonction de ce que je dis sur la génétique. Moi, je crois beaucoup à la génétique en général. Et comme pour avoir beaucoup observé l'aristocratie, ce qui est assez amusant, c'est que l'aristocratie a la génétique dans le sang, si j'ose dire. Et combien de fois ai-je entendu à table parmi ces grandes familles qui ont un château dans le Loir-et-Cher, ah non, non, Marie-Cécile, ne fréquentez pas ce garçon, il y a de la folie dans sa famille. Fascinant.
Donc,
c'est exactement le contraire de ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on devient quelque chose, on ne naît pas quelque chose.
En fait, oui.
Ouais, ouais. En vérité,
la naissance compte.
Tout le monde sait très bien
que... Le sang compte.
Les aristocrates savent très bien qu'il y a de la folie dans certaines familles. Et que c'est pas lié au
contrevient bougrement à l'opinion courante en disant ça.
Écoutez-moi, j'ai entendu ça.
Tout ne s'acquiert pas.
J'ai entendu ça toute ma jeunesse.
Il y a beaucoup de choses.
Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que le caractère gaucher. Bon, j'en parlais dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure à propos de l'homosexualité. Je dis, il n'y a pas de différence de nature entre le fait d'être gaucher et le fait de ne pas avoir des sentiments pour qui il faut. C'est pareil, c'est pareil. Alors, il y a évidemment les gauchers contrariés, puis il y a les homos contrariés aussi. C'est le même genre de contrariété. Donc, tant qu'on n'est pas convaincu que la nature a ses lois avec lesquelles il faut composer, voilà. Ce que je dis dans le livre, c'est que...
Gérard de Gaulle parle à Claude Guy des sombres lois naturelles.
Bah, lui était très malheureusement exposé à ça avec sa fille anormale.
Oui, mais c'est pas ça. Je crois qu'il avait une intuition... Enfin, aussi, il avait oui. quand même une intuition d'une harmonie du monde.
Oui.
Justement, de ce qu'il appelle les sombres... lois naturelles.
Les
sombres lois de la nature.
Oui, mais les...
Sombres parce qu'on
on
les
peut
perçoit
dire,
pas
pour,
très
pour
bien.
Pour un chrétien, par exemple, on peut dire que les gens qui ont le malheur de naître poliomyélitique, enfin, on n'est pas poliomyélitique, mais autiste, etc., sont là, au fond, pour éprouver notre patience, pour éprouver notre bonté, pour éprouver notre regard différent sur autrui. Parce que c'est tellement simple d'être...
Je
tout...
comprends que vous ayez été mis de côté, parce que vous n'avez pas peur de formuler des idées qui sont à angle droit contraire
mais
à ce
non,
qui est,
mais oui, mais si vous voulez regarder...
obligatoire de penser.
Oui, mais en même temps, même le système américain est convaincu de ce que je dis, parce que le système américain passe son temps à pousser des gens en chariot, au fauteuil roulant, pendant, en tout cas plus maintenant, mais dans la période des années que j'ai connues, 80, aux États-Unis,
le Vietnam.
Le handicapé avait une espèce de survaleur dans la société. Oui. Et ça, c'était très chrétien.
Et peut-être qu'il n'en aura plus beaucoup. Alors, est-ce que je voudrais vous faire réagir à une phrase d'Ernst von Salomon que j'aime beaucoup. Peut-être que ça pourrait nous servir de conclusion. Au passage, je cite la phrase que je cherchais. Ce qu'on a voulu nous imposer, en fait, c'est ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui. Elle est simple, cette phrase, mais elle dit tout. C'est la disparition programmée de l'endroit,
oui,
c'est-à-dire
oui.
du normal, oui. du naturel. Donc il y a un endroit. Mais est-ce que ce n'est pas le cas dans les sociétés très techniciennes? Vous qui êtes hyper techno, vous m'avez toujours... On est souvent, il faut le dire, fatigué avec des démonstrations de ce que peut la technique, à la fois pour se déplacer, de ces petits jouets auxquels je ne croyais pas il y a 25 ans.
Oui, oui.
Vous m'avez même annoncé le téléphone portable, je vous ai pris pour un fou,
ça
il
fait,
y a 30 ans.
Ça fait des années que je dis ça, ce sera essentiel. Je me souviens dans mon village, dans mon hameau, j'habitais un hameau à l'époque.
Mais je témoigne qu'il y a 30 ans, je ne croyais pas.
En 92, je disais à tout le monde, à tous les agriculteurs, mais l'Internet, ça va être la révolution absolue.
Oui, oui, oui.
C'est des conneries tout
mais
ça.
Moi aussi, je vous disais ça. Et diable d'homme, donc la phrase est celle-ci, elle me plaît beaucoup, et je voudrais savoir comment un homme comme vous réagit. C'est une phrase d'Ernst von Salomon, pas une référence courante, c'est un conservateur auteur des allemands des années 1920. Son livre fameux, c'est « Les réprouvés ». Le jour où l'homme a cru s'émanciper de la tutelle de Dieu, il ne devinait pas qu'un jour, les machines s'émanciperont de la tutelle des hommes.
Ben oui, c'est en...
Vous, ça, comment c'est, la comprenez-vous, cette phrase?
C'est vrai.
C'est un raccourci terrible.
C'est vrai, parce que...
La machine est un terrible maître, maintenant.
Non, c'est pas un maître. Le problème, c'est qu'elle exige de nous, en permanence, de devenir des opérateurs. Mmh. C'est qu'en gros, je vous donne un exemple. J'ai un ami, qui est mort depuis, qui a fait une crise cardiaque chez moi. Genre 85 ans, bon, c'est presque normal, 20h30, il fait une crise cardiaque, les médecins arrivent tout de suite, mais vraiment, tout de suite. Ils se penchent sur lui, ils avaient un petit défibrillateur avec ils tapent sur le truc, l'écran déconne. À la fin, ils ne se penchaient que sur le moniteur et pas sur le patient. C'est fascinant, ils étaient à genoux.
Le patient n'existe plus.
Devant le c'est fascinant. Le type qui est le supplicant était médecin lui-même, il leur a dit, dis donc, c'est pas la machine qui est malade, c'est moi.
Côté.
C'est quand même... Et donc, effectivement, c'est une tentation très grande aujourd'hui. On est obsédé par la mécanique qui ne marche pas.
L'obsolescence de l'homme...
Non, mais il y a beaucoup de gens, parmi les médecins, tous les pervers narcissiques en général, n'aiment pas qu'une mécanique ne marche pas. Parce qu'ils aiment bien que tout marche, y compris les hommes. Et c'est pour ça qu'ils rendent les hommes mécaniques. Parce qu'ils sont prévisibles ainsi. Ce que ne supporte pas, par exemple, un père...
Autre réduction fameuse de la médecine n'a pas grand-chose à la machine.
Oui, mais déjà, ne serait-ce...
Parce qu'on ne comprend pas la mécanique
supérieure. Le pervers narcissique ne supporte pas les animaux, par exemple. Parce que les animaux sont imprévisibles.
Et oui.
Et oui.
On ne peut pas les mécaniser.
Moi, le nombre de gens pervers narcissiques, donc manipulateurs, pénibles, etc., dans ma propre famille, qui lèvent les coudes quand mon chien se pointe, c'est fascinant.
Et il est où, votre chien?
Il est là, il est sous la table, il dit rien.
J'espère qu'il viendra nous dire bonjour.
Viens voir, viens voir.
Viens dire au revoir.
Allez, viens.
J'ai oublié son nom. Vous m'avez donné son nom, mais j'oublie toujours, Christian.
Il s'appelle Tycho, comme Tycho Brahe. Astronome du XVIe siècle, sur lequel j'ai écrit un petit roman chez Flammarion.
Un astronome du XVIe siècle.
Astronome.
Un astronome.
Qui n'a eu.
Ah, j'avais compris l'astronaute.
Qui n'a donc du XVIe siècle.
Catégories.
Le petit livre n'a eu aucun succès. En France parce que c'était dans les mauvaises années, celle où j'étais, mon étoile pâlissait. En revanche, il était traduit en Russie. Et donc maintenant, je suis un dissident par nature puisque je suis traduit à Moscou.
Alors, vous et votre délicieux petit chien, donc, oui. Comment voyez-vous l'avenir?
Je le vois plutôt favorable par intervention de la Providence. Je dis que nos maîtres, nos bourreaux, en fait, ont oublié l'essentiel, et l'essentiel, c'est qu'ils sont voués à mordre la poussière. C'est toujours le cas.
Parce que la nature est toujours la plus forte.
Je vous rappelle que Hitler disait le Reich durera 1000 ans, il a duré 4 ans et demi. Quoi. On en est là.
Tout empire périra, c'est dans la Bible. Hein.
Et puis surtout parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes méthodes. Et j'aimerais bien que Musk échappe à cette damnation, parce que Musk est complètement dans le genre mécanique en ce moment. Mais il a des tentations de percer, par exemple, le mystère de l'esprit, de la matière au sens quantique du terme.
Mais le faut-il.
Et par exemple, il veut...
Mais le faut-il.
Je ne sais pas, mais en gros, ce type a visiblement une ambition qui est du domaine de l'esprit. Ce n'est pas un mécaniste. Mmh. Et alors, qu'en fera-t-il? Moi, je suis convaincu qu'il est plus ou moins l'antéchrist. Je vous rappelle que l'antéchrist, c'est quelqu'un qui séduit les foules pendant très longtemps et qui va jusqu'à guérir. En gros, il ressemble au Christ en ce sens que il a toutes sortes de pouvoir. Il peut déchaîner des prodiges.
Mais l'antéchrist peut vaincre aussi.
Non, puisque il est prévu le contraire.
Mais oui.
Il est prévu le contraire.
Mais la chose c'est que, pas je, que c'est prévu. Que...
Ce que je faisais comme.
Vous n'êtes pas pessimiste du tout.
Non, pas du tout. Ce que je faisais comme parallèle entre le christianisme et la modernité récemment au micro de TVL chez Bergerot, c'est que il y a une modernité qu'on nous inflige qui est tellement mécaniste.
Pierre Bergerot.
Oui.
Je dis ça pour
pensée mécanique, cette pensée moderniste. A tendance à dire, et c'est très franc-maçon ça, les secrets de l'univers, nous serons tous connus un jour. Car si l'univers est une architecture, il suffit que nous remontions jusqu'au secret et on devient l'égal du grand architecte.
C'est pas ce que vous pensez.
Et non, moi je pense que tout ce qui est essentiel est inconnaissable par nature.
L'invisible.
Et par nature.
L'invisible.
Le chrétien a cette humilité de penser qu'il ne connaîtra pas les trois quarts de la réalité, la vraie.
Alors, je suis très content de cette conversation parce que derrière Campagnol, on a découvert un autre homme, le grand Parisien un peu rive gauche des années 80-90.
Ah oui, c'est sûr que...
On ne le connaissait pas. Le paysan qui ressurgit sous le nom de Campagnol.
Oui. Mais ça, c'est un mauvais tour que je l'aurais joué. Parce qu'en gros, le milieu littéraire m'a plus ou moins écarté. À tel point que Flammarion, qui avait publié le premier Campagnol, n'a pas voulu publier le deuxième.
Ah voilà, parce qu'il est devenu un personnage sulfureux.
Ben, pas sulfureux, mais il a du succès parmi les gens que Flammarion réprouve. Et quand je dis Flammarion, c'est Bolloré, c'est tout l'Empire. En gros, maintenant, les empires de presse et les empires d'édition, c'est la même chose.
Vous ne parlez pas de Bolloré.
Bon, si vous ne pensez pas bien, vous n'êtes pas publié, vous n'êtes pas commenté. Voilà.
Combien avez-vous écrit de livres? Il y en a une quarantaine. Faut-il lire chez Combaz, alors, pour mieux connaître Combaz? Alors, à l'endroit, c'est fort de café, comme je disais.
C'est pas très cher, c'est disponible en ce moment. Et puis ça, si vous l'offrez à des
16
amis...
16 euros pour Noël.
Voilà, si vous l'offrez à des amis pour les emmerder...
Ou pour la chandeleur.
Non, mais si vous avez des amis bien staliniens dans leur tête, c'est le genre de choses qu'il faut leur offrir.
Antidote, puissant. Autre livre de Combaz à lire?
Bon, écoutez, il y en a un roman que j'aime beaucoup et qui a été assez maltraité, qui est il y en a deux, le meilleur à mon avis c'est À ceux qu'on n'a pas aimés,
qui raconte plus profond,
voilà, et qui était gros chez Fayard, qui m'a trahi immédiatement après en faisant rien.
Celui-là,
et puis un autre... La thèse
à ceux qu'on n'a pas...
Ceux qu'on n'a pas aimés, ben c'est ça, c'est-à-dire, en gros, ceux qu'on n'a pas aimés deviennent des poisons et sont là pour éprouver notre faculté de patience à leur égard. Et on voit dans ce livre un juge et un vieux restaurateur qui essayent d'améliorer le destin d'une pauvre fille qui fait tout pour les emmerder, quoi. Qui casse ses jouets,
C'est quelle année celui-là, je ne vois pas.
C'est dans les années 90.
Un autre livre dont
je suis assez fier parce que c'était un vrai beau sujet de film. Ça s'appelait 100 ans et demi. Ça, c'est mon vieux thème de l'âge. Et donc, c'est le narrateur a rendez-vous pour les 100 ans de son grand ami. Et ce grand ami commence la journée en disant à tous ses petits-enfants, etc. Écoutez, je viens de prendre une ligne de coke. Si je ne suis pas mort dans un quart d'heure, je pense qu'on va passer une journée formidable. Voilà, et le livre, c'est la journée en question.
Votre mois préféré ?
Mon mois préféré, c'est les mois d'automne. Moi, je suis né en septembre et j'aime bien l'automne.
Votre région de France préférée ?
Région de France préférée, sans conteste la mienne, parce que, en gros, chez nous, c'est...
On ne dit pas le Rouergue. Hein. Le Rouergue, oui, c'est le nord.
Oui, si, c'est un peu pareil.
C'est le nord de la Véron.
Chez nous, c'est l'Australie. Hein. J'habite là-bas depuis 44 ans. Et je peux continuer à rouler avec une voiture sans plaque. Je ne croise jamais un gendarme de toute l'année.
On va vraiment vouloir trouver
cette voiture. Oui, non, c'est vraiment... Ça n'a pas changé depuis 44 ans. Rien ne s'est construit, aucune grande route, pas de TGV, rien. C'est fascinant.
Votre jour de la semaine préféré ?
Le lundi, puisque maintenant c'est celui de ma chronique.
De votre chronique ?
Oui, c'est tous les lundis
mise,
à midi.
Mise en ligne à
voilà.
Midi le lundi.
Voilà.
Bien, on vous y retrouvera volontiers.
Merci.
Votre grand auteur, question qu'on
parle. Mon grand auteur, Monterland.
Ah !
J'avais beaucoup d'amitié pour Monterland.
Vous l'avez connu ?
Oui, un peu. Enfin, quand je dis connu, je voulais un scoop pour rentrer dans le Figaro. J'avais 18 ans. Je faisais le siège de Monterland dans les restaurants. Au quai Malaquais. À l'époque où il sillonnait avec Masneff, etc.
Et Philippe de Saint-Robert.
Je voulais tomber dessus pour décrocher une interview un peu exclusive pour le Figaro. Mais finalement, j'ai été embauché sans ça.
Votre roi préféré ?
Mon roi préféré.
Ah ah.
En fait, Louis-Philippe, bizarrement. parce que j'aime bien cette France-là, qui est une France apaisée.
C'est un bon roi.
Voilà, c'est une France apaisée.
Bon, écoutez, on pourrait continuer ce dictionnaire Proust.
Ah oui, c'est
questionnaire Proust, pardon. Ouais. Très longtemps, mais je ne sais pas si on a cerné tout ce personnage truculent que vous êtes.
Oh non, mais c'est pas truculent du tout. Mais je veux dire, mon parcours a un avantage, c'est qu'il montre à quel point le système américain nous a blousés.
Oui.
Et que j'étais quand même dans la...
Furieux.
Voilà, j'étais dans la cuisse de Jupiter à l'époque. Donc j'ai bien vu à quel point... nous avons été manipulés et nous avons été punis quand nous avons cessé de vouloir être manipulés.
Et la punition va continuer.
Non, parce que là, je pense que
les méchants sont morts. Ouais. Alors, écoutez, une des bougies qui nous tiennent s'est éteinte pour nous signaler que
c'est
conversation...
comme les ventes aux enchères.
Notre conversation touche hélas à sa fin, mais peut-être
merci.
Que nous pourrons le reprendre. Chère Christian, merci pour tout ce que vous avez dit. Et je voudrais ajouter quelque chose. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté, que j'ai reçu quelquefois avec mauvaise humeur.
C'est gentil.
Parce que vous êtes trop prophétique. Mais vous avez toujours été prodigieusement amical avec moi.
Oh, c'est gentil. Vous
en dire toute ma...
Ah, vous avez un statut aussi assez comparable à celui de Camus à propos de la technique. Parce que Camus s'est servi de moi pour faire ses histoires informatiques dès le début. Il pestait au téléphone en disant « Comment, mais si je fais ça, ça fait ça. » Je dis « Mais attendez, moi je ne suis pas dans la machine. »
J'avais lancé un parti qui s'appelait le RIF.
Oui,
vous m'aviez donné des consultations que je n'ai pas suivies, pour mon malheur d'ailleurs.
Oh, écoutez, bon, cela dit, entre parenthèses, mes méthodes de bachelor marchent mieux que les vôtres.
Ah oui, vous marchez très bien.
Non, mais vous voyez que je ne peux plus faire un pas dans un restaurant sans qu'il y ait des gens qui me reconnaissent. Par conséquent, je pense que la méthode... Oui. Pour rendre une pensée ou une parole populaire, c'est un peu celle-là.
Ah mon Dieu, nous n'en finirons jamais de vous parler, c'est exquis.
Écoutez,
merci pour votre temps,
merci
pour votre
visite, c'est
très
gentil.
Merci pour tout, mon cher Christian.
Bon, je saute dans ma voiture.
Très bien, pour une fois, vous ne prenez pas l'avion.
Non,
vous ne sautez pas en parapente, rue Dauphine à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, Christian.
À bientôt.